Je suis un petit peu maladroite ou confuse, mais je vais essayer de répondre à deux questions sur cette question de la biologisation que vous évoquiez, la question de la déviance, qui me permettra peut-être aussi de parler de mon propre terrain sur l'accueil d'embryons. D'abord, il faut dire que sur cette question de la biologisation, il y a un fait qui est tout à fait important, c'est qu'en France, le double don est interdit, hein, le double don de gamètes. Donc on voit bien ici, c'est-à-dire que ce qui est autorisé dans le cadre de la PMA ou des NTR au choix, c'est donc soit un don de sperme, soit un don d'ovocytes. En aucun cas, vous pouvez recourir aux deux, en sorte que lorsque les deux membres du couple sont infertiles, en général, vous vous tournez notamment vers l'Espagne où cette pratique est autorisé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire ici qu'il y a quelque chose effectivement de l'ordre de l'attachement à une filiation biologique très 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 clairement et qui est partagée par les personnes qui ont recours à la PMA. Moi je sais que donc en fait avant de travailler sur l'accueil d'embryons, j'ai travaillé pendant un an dans un hôpital parisien où j'ai observé des consultations dont issu mon précédent livre qui s'appelle « L'enfant des possibles ». Et on voyait bien dans ces consultations comment cet attachement biologique, il est réel. C'est-à-dire l'idée que même dans un don de gamètes, eh bien, de la part des personnes qui ont recours à cette technique, l'idée c'est de dire ben, il y aura une partie de nous quand même, une partie de nous. Donc ça rejoint aussi la question de la déviance, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous, donc on n'est pas non plus totalement déviant. L'idée aussi, peut-être aussi par rapport à cette question de la déviance, alors dans un sens très, très large, c'est qu'il y a aussi ce souci d'avoir une parenté comme les autres. C'est-à-dire que ces personnes-là, déjà après, elles sont suivies comme un couple lambda. Hein, enfin, la femme, notamment, est suivie de tout à fait... voilà. Et il y a tout aussi un travail de la part du couple qui consiste à invisibiliser le recours à la PMA pour dire ben, « nous sommes des parents comme les autres ». Et après, l'idée est aussi de dire, par exemple, à un enfant maintenant, ben, il est issu... Enfin, on ne cache pas à un enfant qu'il est issu d'un don de gamètes, mais on ne va pas forcément le révéler... à l'entourage. Alors, après, et c'est là peut-être une petite insiste sur mes terrains sur l'accueil d'embryons, donc la question moi, que je me suis posée, c'est dès lors que le double don est interdit en France, pourquoi autorise-t-on le don, ce qu'on appelle donc sous un même titre l'accueil d'embryons, c'est le fait de donner ou de recevoir des embryons. Donc l'accueil d'embryons, pour le dire brièvement, qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous faites une fécondation in vitro, vous avez des embryons congelés qui sont donc des embryons surnuméraires. Ces embryons, vous avez quatre options, en fait, quatre. Soit vous les gardez pour un propre projet parental, soit vous les donnez à la recherche, soit vous demandez à les détruire, soit vous les donnez à un autre couple, lequel autre couple est en fait en bout de course en quelque sorte, tout a échoué, et donc on propose à certains couples de recourir à cet accueil d'embryons. Donc pourquoi je me suis intéressée à ça? Parce que précisément, quelle est la différence entre une adoption et un don d'embryon, puisqu'il n'y a rien de génétique dans cet embryon. Vous avez fort bien souligné la question de la corporéité et de la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réintroduction du biologique avec la gestation, alors qui est portée par la femme. Et sur cette question aussi de... Donc la femme rebiologise en quelque sorte cette parenté avec l'accord du conjoint. Par rapport à la question de la déviance pour ces couples hétérosexuels, hein, l'AMP en France n'est autorisé que pour les couples hétérosexuels en âge de procréer. Et sur la question de la déviance, on est en plein dedans en ce moment. C'est-à-dire que va-t-on ouvrir ou pas la PMA aux femmes seules ou en couple de femmes? Justement, qu'est-ce qui est déviant? Qu'est-ce qui est normal? Est-ce que ces femmes sont déviantes? C'est exactement ce qui est en cours en ce moment. Et en tous les cas, donc pour ces couples qui accueillaient des embryons, dans les entretiens que j'ai pu mener, alors il y a 26 enfants hein, qui naissent pas. Enfin, les deux dernières années, il y a eu respectivement, je crois, 23 et 26 enfants hein, nés d'accueil d'embryons. Donc c'est vraiment un terrain très, très minime, mais en tous les cas, cette question, l'idée, c'est aussi de dire, bah, il sera comme les autres. c'est pas juste un attachement biologique, c'est de normaliser aussi cette parenté. Et dans le terrain que j'ai pu observer, c'était dans la région du nord, en fait, de Lille, et avec aussi sur le regard des autres, le regard de la famille, le regard du village, qui est, voilà, les voisins, ils vont arrêter de se poser des questions, ils vont voir que ma femme, elle est enceinte, une adoption, là, dans le coin, ça va pas bien se passer, et donc, finalement, ça sera, donc, c'est pas juste l'attachement biologique, c'est aussi l'attachement à cette représentation d'une parenté normale qui est tout à fait importante. Voilà, donc sur la question de la déviance, là je suis en train de terminer le rapport d'une thèse qui va être soutenue à Caen là, très, très prochainement, sur justement des mères lesbiennes qui ont recours à la PMA. Et donc, qu'est-ce qu'elles font des représentations de genre, en fait, après, dans l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants. Et on voit bien, là aussi, comment il y a ce souci de ne pas apparaître comme déviant, c'est-à-dire que ces mères lesbiennes font vraiment tout ce qu'il faut pour... tout ce qu'il faut dans l'imaginaire, en tout cas, pour apparaître comme des mères et comme des parents, comme les autres. Voilà, juste dire aussi, il y avait une expression qu'Henrik employait souvent dans ses séminaires, qui était l'idée qu'il fallait dépasser un petit peu l'opposition entre West et le reste, between the West and the rest. Et voilà, il y a quelque chose aussi à penser sur ces questions de parenté, de filiation, et la distinction très nette à opérer en tous les cas entre filiation entre filiation, avec l'idée donc que cette filiation, c'est quelque chose qui est socialement sanctionné par un acte. Hein, là, je reprends quasiment mot à mot les termes d'Henrik, alors que la parenté, elle découlerait plutôt d'un ensemble de représentations qui décrivent précisément une forme de proximité corporelle entre des êtres qui sont désormais reconnus comme parents. Voilà, je m'arrête là pour ce que j'aurais brièvement à dire. Et sur le don de... Peut-être toi, tu voulais...
Tu veux répondre? Parce que les deux dossiers se croisent.
Sur la première question, ou la deuxième, je ne sais plus, à propos du rapport au corps dans la fabrication de leur parenté, de leur lien de parenté par les couples gays ou les gays, l'ethnologie française n'en parle pas, c'est vrai, mais parce que... il n'y avait pas de gens qui étaient là dans le dossier qui avait ce genre de terrain. Mais il y a des choses qui existent, hein. Quelques trucs qui existent, hein. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Il y a notamment sur la question de l'importance du lien biogénétique, hein, aux yeux des pères gays. Il y a le travail de Martin Gross, bien sûr, qui sur sur ces questions-là est incontournable. Elle a beaucoup de matériaux de terrain. Je pense que vous pouvez trouver, si ça vous intéresse particulièrement, des choses aussi dans deux choses que j'ai publiées. Alors sur la question du lien biogénétique, c'est un article que j'ai publié dans le journal des anthropologues, il y a 2 ans. Mais je pense aussi, dirigé par Séverine justement et Mélanie Gourarier, et je pense aussi à un article que j'ai publié cette année dans ce bouquin collectif sur la GPA, où là, moi je m'intéresse à autre chose, j'ai pas suffisamment approfondi, mais j'aimerais bien le faire à l'avenir. Je m'intéresse aux moments qui suivent l'accouchement et qui le précèdent. Dans le cadre de la gestation pour autrui, des gestations pour autrui menées à la fois à l'initiative plutôt, de couples hétérosexuels et de couples gays. Et je m'intéresse notamment à toutes ces pratiques autour du corps, depuis l'imagerie médicale pendant la grossesse, hein, avec la manière dont les femmes porteuses essaient de, à la fois pour, entretenir le lien avec les futurs parents de l'enfant, leur faire toucher du doigt ce qu'il se passe au cours de la grossesse, parce qu'ils sont loin, et qu'en plus ce sont parfois des hommes, mais aussi pour les aider à fabriquer leur future relation avec l'enfant, dans des sociétés où on sait que la grossesse, c'est une partie déterminante de l'expérience des futurs parents, il y a tout un tas de pratiques qui consistent à envoyer des clichés d'échographie, on les tient au courant, on Skype avant, on Skype après. Alors, comme on considère, l'épigénétique n'a rien inventé de ce point de vue-là, on considère qu'il y a quelque chose de particulier qui se fabrique du point de vue du lien entre l'enfant et la femme qui le porte, eh bien, on sollicite des enregistrements de la voix des futurs parents, y compris des pères gays, ou bien alors des morceaux de musique qu'ils affectionnent, enfin, ce genre de trucs, parce qu'on considère dans notre société que ben, ce lien entre parents et enfants, il se fabrique, hein, il commence à se fabriquer dans ce temps-là de la grossesse, y compris pour le parent qui ne porte pas l'enfant. Et je me suis intéressé aussi aux moments qui suivent l'accouchement. Alors là, je ne suis pas le premier à le faire. Hein. Il y a des gens qui l'ont beaucoup mieux fait que moi. Je pense notamment au travail d'Eli Theman, une anthropologue israélienne qui a travaillé sur la gestation pour autrui en Israël et qui s'intéresse dans des dispositifs particuliers. Hein. La GPA est mise en œuvre à des fins nationalistes aussi hein, par Israël. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Je ne m'attarde pas là-dessus plutôt. C'est mis en scène de manière particulière. Ce n'est pas des agences commerciales. C'est l'institution publique qui organise la gestation pour autrui. Et elle évoque notamment ces couples de parents qui sont dans une pièce contiguë du lieu où accouche la femme, séparée par une vitre. Hein. Et donc, ils sont là, évidemment, ils sont associés autant que possible à ce moment de l'accouchement. Et puis, elle décrit, elle s'intéresse beaucoup à ce qui suit après, les gestes hein, autour du bébé, dès qu'il sort du ventre de la femme qui l'a porté, la manière dont on coupe le cordon, qui le fait, qui est sollicité pour le faire, les pratiques de peau à peau qui sont de plus en plus répandues hein, dans nos sociétés, y compris dans un univers médical. Tout cela nous renseigne aussi sur la place qu'occupe le corps en dehors de la simple transmission biogénétique ou de la seule transmission biogénétique et en dehors de l'expérience même de la grossesse. Hein, le corps est présent à différents moments et je ne parle même pas de l'allaitement maternel et des pratiques d'allaitement, hein, notamment par le biberon où on peut aussi choisir d'allaiter avec du lait tiré donné par la femme qui a porté l'enfant, etc. Ou au contraire, comme ça se passe parfois en Israël, hein, des mères d'intention qui décident de stimuler la production de lait maternel chez elles-mêmes pour pouvoir allaiter directement l'enfant très tôt. Bref, il y a tout un tas de pratiques corporelles qui participent à la fabrication des relations de parenté qui nous renseignent en réalité sur les représentations des gens et sur la manière dont ils perçoivent l'importance du corps dans la fabrication de ces liens.
Enfin, sur le troisième point, concernant le fait que ce dossier dans Ethnologie française accorde une large place à la question de la globalisation, de la biopolitique, moi j'appelle ça la circulation des personnes, parce que c'est le terme juridique. Et je voulais dire qu'au départ, j'avais l'impression d'être comme une espèce d'intrus dans ce dossier, parce que je suis la seule juriste. Et donc, je me rends bien compte quand je vous lis, les sociologues, anthropologues.
Vous n'êtes pas la seule juriste, il y en a un deuxième.
Il y a qui ?
Il y a moi.
Monsieur. Non, dans le dossier, dans l'éthologie française. Non, je disais que j'avais eu l'impression, quand j'avais lu l'ensemble du dossier, d'être comme une espèce d'ovni, parce que je ne parle pas la même langue que vous, je ne m'intéresse pas du tout aux mêmes éléments, et finalement, effectivement, j'ai eu l'impression que je m'inscrivais, cet article qu'ils ont mis au début, je m'inscrivais dans ce que vous appelez la globalisation des biopolitiques. Et alors, du coup, en relisant ces deux revues, ces deux dossiers pour préparer cette séance d'aujourd'hui, je me suis dit que finalement, j'avais une question à vous poser, vous, à vous, sociologues et anthropologues. C'est pourquoi, si j'avais à dire les choses de manière archi basique, je dirais que en 1804, lorsque je travaille sur la filiation, sur une filiation au sens juridique, m'interpelle dans tous les dossiers qui sont dans ces deux revues, c'est que finalement, le droit, en fait, ne s'est jamais intéressé au corps. Parce que contrairement à ce qu'on a enseigné pendant longtemps, même dans les facultés de droit à propos de la filiation, la filiation ne repose pas du tout, en tout cas lorsque ces fondements sont mis en place en 1804, sur l'idée de singer la nature. Il y a bien sûr l'idée d'être proche d'une vraisemblance biologique, mais voilà, les grands traités de droit du début du XXe siècle disent clairement que la filiation n'a rien à voir avec la vérité biologique. C'est dit dans des grands traités comme celui de Colin et Capitan. Et vraiment, le droit, très vite, enfin, de 1804 à... Il commence à y avoir un infléchissement à partir de 1772, première grande réforme du droit de la filiation instaurée par Jean Carbonnier. L'idée, c'est que voilà, l'État civil, donc cet important État civil, l'État qui vient garantir l'identification, pas l'identité des personnes, le droit n'a rien à faire l'identité des personnes. Ce qui l'intéresse pendant un siècle et demi, c'est l'identification des personnes au sens policier et le regroupement des familles. C'est, voilà, il n'y a pas du tout, dans le droit, il n'y a pas du tout d'intérêt pour le corporel, pour le biologique. Donc, toute en droit, il y a deux grands volets. Il y a ce qu'on appelle l'extra-contentieux et le contentieux. Donc, tout ce qui est la phase normale de 98,8% des gens, c'est l'établissement normal de la filiation, un enfant né, comment les modes d'établissement vont se mettre en place pour que l'enfant soit rattaché à une femme et éventuellement à un homme. Donc, évidemment, on a tendance à dire que pour la maternité, c'est lié à du corps parce que le droit français, depuis 1804 et même avant, reproduit l'adage « mater certas inter est ». Mais c'est une reconstruction qu'on fait aujourd'hui parce que le droit a toujours admis que les femmes puissent accoucher dans l'anonymat, même s'il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que cette possibilité soit inscrite dans le Code civil, et puis qu'il y a toujours eu beaucoup de circulation entre femmes et femmes, et les travaux que Marcela Yacoub fait et montre jusqu'à la milieu du XIXe siècle, il y a vraiment chez les juges l'idée qu'une femme assez facilement la possibilité de donner un enfant et de la rattacher à une autre femme que celle qui a accouché. Donc, cette crispation sur mater certas imper est, elle est assez récente et elle est vraiment liée à la montée de la gestation pour autrui. Donc, le droit, dans ses modes extra-contentieux, s'intéresse assez peu aux échanges, ce que vous appelez les échanges d'humeur, de substance, de corporéité. C'est basé, Irène l'a montré et parfaitement démontré, que c'est lié à l'alliance et que c'est lié à la légitimité et que c'est lié aussi, et le travail de Sylvie Steinberg le montre très bien aussi, à cette idée que c'est un acte de volonté, l'établissement de la filiation. Donc c'est vraiment une démarche volontaire et même dans le cadre des filiations en mariage, il y a toute une théorie qui apparaît en droit, apparaît à partir du milieu du XXe siècle, qui dit que la présomption de paternité dans le cas du mariage, ça serait une façon de reconnaître par avance, donc de donner par avance sa volonté aux enfants, enfin de donner par avance, de reconnaître par avance les enfants qui naîtront de sa femme, et que ça serait ça, donner son consentement au mariage, ça serait donner son consentement à reconnaître automatiquement les enfants qui naîtront de la femme qu'on a épousée. Donc pas grand chose à voir avec la biologie. Et puis, c'est dans la phase extra-contentieuse, c'est-à-dire dans la phase contentieuse, pardon, c'est le moment où ça se passe mal, où on a une hésitation sur l'identité, alors aussi bien de la femme, parce qu'elle pourrait avoir accouché sous X, donc il peut y avoir des actions en recherche de maternité, mais c'est surtout sur la phase paternelle, c'est-à-dire les moments où on doute de celui qui est le géniteur, où le géniteur s'est défaussé, que progressivement en droit va se mettre en place l'expertise biologique. Et donc j'étais étonnée, dans ces deux dossiers, Agnès Martial y avait travaillé avec Agnès Fine il y a quelques années, que finalement cette question de la place du corporel, de la place du lien biologique, des sociologues, des anthropologues ne se soient pas interrogés pour le mettre en perspective avec toute l'importance que ces liens biologiques ont pris, que vous ayez personne n'ait envie de retravailler sur le début, c'est-à-dire le moment où, dans les années 40, se met en place la possibilité de recourir à des expertises pour dire telle personne n'est pas le père biologique, et puis à partir de 1972, la notion d'expertise biologique vraiment prend tout son sens dans la loi sur la filiation. Donc voilà, le point de départ de la prise en considération par le droit du corporel pour faire preuve d'un lien juridique, je me suis demandé, Il y a un peu dans l'article de Sylvie Steinberg, mais ça me semblait manquer. Or, moi, il me semble que tout part de là. C'est-à-dire qu'au départ, le droit essaye de faire intervenir le biologique pour remettre un peu d'ordre dans quelque chose qui est en train de... Voilà, au moment où c'est flou. Et c'est vrai qu'ensuite, les nouvelles technologies de la reproduction, en fait, amplifient cette tension entre... amplifie ou force le droit à reconnaître plus de place aux liens biologiques, aux liens corporels, à la reconstruction de ce corporel, à la manière dont ils se re-représentent, alors que le droit n'en a rien à faire, quoi, en fait. N'en a jamais rien à faire. Et donc, aujourd'hui, il est forcé de tenir compte de la manière dont, finalement, les individus recomposent, font des montages, comme vous dites, négocient, ces formes de parenté. Voilà. Et c'est cette complexification auquel le droit a affaire qui m'intéresse. Alors, la première réaction du droit face à ces complexités recensées par ces dossiers donc, que vous avez extrêmement bien présentés, on en a déjà discuté, la première réaction du droit, ça a été effectivement de se figer sur le biologique, on va dire, au sens où le biologique lui permettrait, comme le dit Stéphane Roux, de garantir les identités. Donc, c'est tout ce qui s'est passé à propos de la GPA, puisque finalement, si le droit français a dû céder, c'est parce que la Cour européenne l'a obligé à céder, mais elle ne l'a obligé, la Cour européenne, à céder que sur un point. Et ça, c'est vraiment important de le souligner, c'est-à-dire la Cour européenne, lorsqu'elle condamne la France en 2014, elle ne donne pas un blanc-seing à la France en lui disant, elle donne pas un blanc-seing, pardon, au couple en leur disant, votre filiation à l'égard de ces enfants qui sont nés par GPA va être obligatoirement reconnue par le droit français. La Cour européenne va finalement elle-même reprendre un seul prisme, c'est le prisme du biologique au sens du biologique, au sens contentieux, c'est-à-dire faire la preuve des filiations lorsqu'il y a un doute. Et la Cour européenne des droits de l'homme dit simplement que lorsqu'il y a un lien biologique entre le géniteur père qui est reconnu comme le père légal à l'étranger et que la France ne veut pas encore reconnaître, eh bien, donc, lorsqu'il y a ce lien biologique entre un homme et un enfant, alors il y a une obligation de reconnaître pour l'État français ce lien de filiation. Et bien sûr, la Cour européenne, parce que c'est tout le nœud du problème, la parenté d'intention, que finalement on aurait pu imaginer que le droit français absorbe très facilement, parce que ces parentés d'intention, elle les connaît, le droit le connaît depuis bien longtemps. Mais voilà, ça s'est crispé, parce que ça a trop explosé. Ces parentés d'intention, la Cour européenne reste en retrait et ne fait pas la leçon au droit français pour lui dire comment elle va devoir les reconnaître. Et Jérôme a expliqué que finalement, la manière d'intégrer ces parentés d'intention, parce que le droit était vraiment perdu et que s'affronter des questions d'ordre public et de morale et de valeurs fondamentales du droit français, ça a été de dire nous ne reconnaîtrons pas les parentés d'intention de manière directe, vous serez obligés, vous les parents d'intention, que ce soit des mères d'intention ou que ce soit des pères d'intention, les couples gays, d'adopter votre propre enfant. Donc le compromis, c'est finalement d'imposer une sorte de sanction civile à ces gens qui ont vraiment trop bidouillé la filiation la filiation biologique donnée, c'est de leur imposer une adoption. Et qu'est-ce que ça veut dire une adoption? C'est une espèce de sanctification par l'État. Donc on revient là à quelque chose qui est très important, moi je trouve, dans le dossier de Genève, c'est la manière dont l'État, qui au départ identifie les individus et puis ce phénomène d'identification permet en retour aux individus de s'identifier, mais il faut pour s'identifier que l'État soit fiable, sûr et des modes d'identification sûrs, eh bien l'adoption, c'est la quintessence, Stéphane Roux le montre extrêmement bien, c'est la quintessence de ce moment où l'État va authentifier une identité, puisque un juge, et pas un officier d'État civil, un officier d'État civil comme celui de, comme ce, le rôle que peut avoir Laurent Fichot, procureur au service de l'état civil de Nantes, c'est simplement, il transcrit par exemple une décision. Dans le cas du juge, c'est finalement une autorité supérieure, c'est vraiment une délégation beaucoup plus forte de l'État, puisque le juge ne va pas simplement homologuer la transcription, il va juger si c'est opportun de le faire. Il y a un jugement d'opportunité, donc finalement l'État vient donner une onction supplémentaire à cette reconnaissance. Et donc là, il y a une sorte de blanchissement hein, de la GPA qui est fait, un blanchissement de la parenté d'intention qui est fait au travers de la parenté adoptive qu'impose aujourd'hui la Cour de cassation, puisque vous savez que tout ça n'est pas législatif, mais est jurisprudentiel, c'est-à-dire c'est les juges qui montent, qui essayent de trouver des solutions. Donc voilà, moi ce qui m'a vraiment profondément intéressée dans ces deux dossiers, c'est la manière dont voilà, le droit, qui était assez basique dans sa manière d'appréhender la filiation à travers les institutions, les alliances et pas tellement par rapport à la biologie, est obligé aujourd'hui de se coltiner à la biologie. À la fois, ça lui sert lorsqu'il y a une expertise biologique, mais en même temps, ça le déroute encore plus puisque c'est tout ce que vous avez montré dans ces dossiers, c'est-à-dire la manière dont les gens renégocient avec de la corporéité. Alors ceux qui vont dire, ben, si j'allaite, en fait, je suis la mère. Si j'ai porté l'ovocyte, si j'ai donné mon ovocyte, même si c'est ma compagne qui a porté l'ovocyte et qui a porté l'enfant qui a été issu de cette fécondation, je suis quand même la mère parce que même si ce n'est pas moi qui accouche, j'ai quand même donné les ovocytes. Et puis, là où, donc, tout ça, là, le droit, il ne sait plus du tout comment faire parce que ça complique cette idée qui était la sienne d'établir des filiations à partir d'engagement et de se tenir à la filiation que lorsqu'il y a des contestations. Et puis, donc, le moment, enfin, le lieu aujourd'hui où le droit est le plus malmené parce que finalement, il a voulu, en 1994, concernant les dons de gamètes, il a voulu appliquer ce qui était finalement son mode d'établissement habituel. En 1994, quand les dons de sperme et les dons de gamètes sont pour la première fois organisés en France, c'est quand même intéressant, le dispositif ne s'inspire pas de l'adoption, mais s'inspire directement de la filiation charnelle. Et le mot charnel n'est pas approprié, c'est le mot filiation, c'est-à-dire que le législateur dit ces dons de gamètes, on va complètement les oublier, c'est pas très important, on va très facilement inscrire ces filiations qui ont recours à un don de gamètes dans le modèle habituel de la filiation, puisque le modèle habituel de la filiation, c'est l'engagement déjà, c'est le projet parental depuis un siècle et demi. C'est quand même, les juristes l'ont élaboré comme ça quand même. Et d'ailleurs, au moment du débat sur les tests génétiques à visée migratoire, c'est bien ce que le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique, va nous dire. La filiation, c'est essentiellement du conventionnel, de l'artifice, du juridique, c'est pas du biologique. Hein. Il va les mettre de côté et du coup, vous savez que cette loi qui imposait les tests génétiques migratoires, il lui fallait un décret pour être mis en place et ce décret n'a jamais été adopté. Donc la loi existe, mais c'est une coquille vide et donc elle est devenue désuète par le simple fait qu'on s'est aperçu que la filiation, que le CCNE avait bien reconnu que la filiation pour le droit français, c'était quelque chose de conventionnel et de social et pas de biologique. En tout cas, voilà, sur le don de gamètes, lorsque ces filiations doivent s'intégrer dans le code civil, ça ne pose pas vraiment de problème parce que finalement, le projet parental, c'est quand même ce qui subsume la filiation occidentale depuis assez longtemps. Et là où finalement, donc le droit pensait que ça se passerait bien, effectivement, ça serait un modèle un peu particulier de filiation basé sur le projet parental, mais on pensait que ça se passerait très bien. Et aujourd'hui, ce qui dérange beaucoup le droit, c'est que finalement, ce que vous appelez, vous les anthropologues, la parenté, c'est-à-dire ces liens de proximité, ces liens de corporéité avec le donneur, celui qui a donné ses gamètes, je simplifie, hein, je ne suis pas anthropologue, c'est que finalement, le droit qui avait voulu les oublier, et qui avait voulu les mettre de côté, est aujourd'hui face à ces demandes d'enfants qui voudraient pouvoir accéder. Alors le droit dit non pas au corporel, mais on dit aux origines, puisque ce mouvement a débuté, et là j'apporterai une petite correction par rapport à ce que dit Stéphane Roux dans son, dans son dossier sur l'adoption, ce mouvement de recul...
Sébastien.
J'ai dit quoi, Nicolas? Non. Depuis tout à l'heure, j'ai Nicolas, Stéphane. Stéphane. Ah, je ne sais pas, je trouve que ça sonnait bien, Stéphane. Bon. Voilà, c'est Sébastien.
Non, mais comme
ça fait plusieurs fois. Oui, là, ce qui dit à propos du fait que le droit a voulu entretenir le secret et que ce serait finalement que depuis peu que le droit s'intéresserait à cette traçabilité, je pense quand même qu'il faut juste corriger. Mais corriger et peut-être pas corriger, je ne sais pas, parce que l'adoption, c'est peut-être autre chose, mais il dit que jusque dans les années 70-80, le droit s'est intéressé essentiellement, enfin, a été vraiment soucieux de préserver le secret. Et en particulier, il prend la question de l'adoption. Alors moi, je pense que là-dessus, il faut être un peu plus précis. Ce n'est pas vrai que le droit a organisé le secret. Il faut juste être bien conscient que le droit dit effectivement que lorsqu'un enfant a été adopté, le jugement d'adoption va constituer le nouvel acte de naissance de l'enfant. Et que donc l'acte de naissance originaire, qu'il soit l'acte de naissance en France ou à l'étranger, va être annulé. Mais il faut ajouter aussi quelque chose de très important, qui est que sur le nouvel acte de l'enfant, le nouvel acte de naissance de l'enfant, c'est la transcription du jugement d'adoption. Donc, le nouvel acte de l'enfant, quand on le regarde, quand on a une copie intégrale de cet acte de naissance, on voit que c'est un jugement d'adoption. C'est écrit, c'est-à-dire il y a écrit qu'en vertu du jugement bidule machin de tel jour, l'acte de naissance est écrit, enfin, va dire que monsieur et madame Duchemol sont les parents de l'enfant. Et c'est écrit qu'il y a eu un jugement d'adoption. Donc, il n'y a pas de secret organisé par l'État. Et ça, ça date déjà de 66. Donc, il faut quand même faire attention hein, quand on dit que le droit organise le secret parce qu'effectivement, il valorise le projet parental. Sur l'adoption, effectivement, il valorise les projets parentaux des parents adoptifs. Mais la traçabilité sur l'adoption, alors pourquoi sur l'adoption c'est facile ? Sans doute parce qu'il y a un jugement et qu'il y a un juge qui intervient et que donc il y a une modification de ce qu'on appelle l'état des personnes. C'est vrai que pour l'adoption, cette traçabilité de l'origine, même si elle est discrète, puisqu'elle n'apparaît que sur un acte particulier, qui est la copie intégrale, acte éminemment authentique, mais qui n'apparaîtra pas sur le livret de famille, qui n'apparaîtra pas sur l'acte de naissance, sur les actes authentiques, il y a bien cette traçabilité, ces séquençages de filiation qui vont apparaître. Sur la question de l'accès, sur la question de l'origine ou de la fabrication d'un enfant né par don de gamètes, ça a été plus compliqué par le droit, et le droit a pensé que finalement, son prisme, sa matrice du projet parental, de la volonté, ça suffirait. Et là, il est pris en défaut. Donc, voilà. Mais je voulais juste insister sur cette idée que quand même, la traçabilité, c'est quelque chose que le droit a à cœur depuis assez longtemps et pas simplement, c'est pas quelque chose qui lui est imposé aujourd'hui de force par certaines demandes d'enfants nés par don de gamètes. Voilà. Donc, moi, ce qui me fascine, c'est comment le droit, qui n'a pas beaucoup d'instruments, hein, qui ne peut pas effectivement être aussi subtil et qui ne peut pas tenir compte de toutes ces recompositions et de ces réappropriations, essaye de mettre de l'ordre, puisque de l'ordre est de donner des garanties au sentiment d'identité de chacun, et finalement en permanence en retard. En retard, et comment en permanence il essaye, et on voit bien sur la gestation pour autrui et la question de la filiation dans les couples de femmes, est-ce qu'on marquera que ces femmes ont eu recours à un don de gamètes ou pas, hein, c'est quand même un des enjeux cruciaux de cette réforme, comment le droit essaie d'appréhender tout ce que vous appelez, voilà, ces reconfigurations, ces négociations avec le biologique, et comment forcément il y a toujours un train de retard.
Quand vous dites qu'il est en retard, il y a quand même une conciliation à faire avec le droit de l'enfant. Et là, le droit de l'enfant est un peu ignoré.
Mais c'est justement ce que...
La GPA, ça ignore le droit de l'enfant à connaître ses origines, à connaître ses véritables parents, s'il considère que... je sais qu'on a tendance à dire maintenant que les biologiques, les parents biologiques ne sont pas des véritables parents. Mais l'enfant a le droit de penser le contraire. Il a quand même le droit à ce que la vérité lui elle soit révélée. Il a le droit de penser le contraire. Donc je trouve qu'il y a... vous dites qu'il est, le droit est en retard. Moi, je trouve que la conciliation, c'est plus difficile que ça, parce que la conciliation est quand même difficile entre le droit des parents d'intention et le droit de l'enfant. Je trouve que la conciliation est quand même difficile.
Tout à fait. Mais c'est justement cet aspect-là que, dans son introduction, Henrik dit que le retour de la corporalité se fait par la notion d'intérêt de l'enfant. Alors, peut-être, voilà, je vous laisse parler. Voilà.
Marika Moïseyev, donc je suis à la fois ethnologue et médecin psychiatre, pas du tout anthropologue médical ou ethnopsychiatre, même si je suis ici, mais concernant donc les histoires ces histoires de parenté particulière. Il se trouve qu'effectivement, je suis spécialiste de la parenté des aborigènes australiens qui a fondé les études de parenté, mais que par ailleurs, en tant que psy, étant psychiatre pour enfants et adultes, j'ai travaillé dans une unité parents-bébés et du coup, j'ai été amenée à avoir des parents qui suivaient des parcours de NTR et que je continue à voir et que je vois également des couples donc, de lesbiennes, etc. Donc, et que par ailleurs, il vaut mieux pas parler d'Henrik parce que c'est très sensible, parce que c'est un collègue extrêmement intéressant et en plus gentil, ce qui est rare dans nos disciplines. Donc, de ce point de vue-là, je me sens un petit peu habilitée à faire un petit pont parce que Henrik, en général, faisait des ponts. Et ce qui était intéressant, quand il parle de The West and the Rest, je crois qu'il a insisté parce que pendant très longtemps, on a été un certain nombre à se porter en faux par rapport, en tout cas à critiquer Françoise Héritier par rapport à son assistance qui nous semblait trop importante par rapport aux substances. Et Henrik a dit, parce que effectivement les relations de parenté ne sont pas seulement les relations proches, justement, il y a toujours des catégories élargies, et c'est l'articulation entre proximité liée à une proximité physique qui peut être une intimité qui n'est pas nécessairement purement substantielle, mais qui peut être de convivialité, de commensalité, de partager des lieux communs qui fait une intimité. Ça, c'est ce dont on ne parle pas. Et ce qui fait problème dans les sociétés autres, beaucoup, c'est le fait que quand il y a eu une proximité physique dont l'icône, le symbole majeur, c'est la gestation, c'est-à-dire une fusion physique entre des individus qui n'ont pas d'indépendance l'un par rapport à l'autre, il va falloir que la société introduise plein de choses pour permettre la distanciation. Et en vous écoutant, je me dis que c'est une chose qu'on ne discute pas chez nous. Parce que ce que ça met en valeur, ce qui se passe chez nous, et vous avez raison de poser la question par rapport aux minorités, et pas nécessairement aux déviances, mais à des minorités, on va rejoindre la problématique de l'adoption, c'est effectivement que, par contre, ça met en valeur des choses qui tendent à être cachées, parce que ça va de soi. Dans d'autres, enfin, quand la parenté ne pose pas de problème. Et là, tout d'un coup, ça met en valeur. Par exemple, les NTR ou les PMA, ce que vous voulez, c'est incroyable, c'est à partir de ça que les gens savent comment on fait des enfants à l'heure actuelle. Oui. Les gens ont des idées très claires, donc c'est une minorité, mais c'est ce qui met en valeur. Au niveau de l'adoption, le modèle de la filiation, qui est très clair pour les gens et pour le droit, c'est plus facile de passer par l'adoption. Parce que, par exemple, moi j'ai une collègue
comment
qui est...
Facile.
Alors, je vais t'expliquer. Parce que si tu veux, ça décrit effectivement quand il y a un problème, comment on va faire pour définir qu'il y a des parents qui vont pouvoir transmettre leurs relations de parenté, qui ne sont pas seulement papa et maman. Quand on devient une adoption plénière, c'est d'autoriser la transmission de l'ensemble des liens de parenté aux gens qui ont un lien de parentalité. On parle toujours de parentalité, on ne parle pas de cette transmission des liens élargis qui ne sont justement pas un lien. Bon, je te donne des exemples. Par exemple, moi j'ai une collègue qui est psychiatre, qui est française, qui est psychiatre au Québec, qui est mariée avec un Québécois. Elle a enregistré ses enfants, elle a eu 4 enfants, je ne sais plus, plusieurs enfants. Elle les a enregistrés au consulat de France comme français, par exemple, ils ont la double nationalité. Et puis le quatrième, ils ont oublié de le faire à temps. Et donc il a fallu, la seule façon pour qu'ils le reconnaissent, c'était de passer par l'adoption. C'est-à-dire comme ils avaient gratté le coche. Donc c'était très gênant pour lui, et lui ça les a fait rire, parce que c'est une famille qui est bien fonctionnelle, donc c'est pas un problème. Mais lui, il a fallu que pour qu'il y ait une reconnaissance de la part de l'État français qu'ils étaient les parents, de passer vers ça. Alors, je te laisse
les choses.
Mais ce que ça met en valeur, c'est le fait, je reviendrai par rapport à la distanciation de West and the Rest, c'est le fait que, il me semble, encore une fois, en écoutant, et vraiment c'était très intéressant, vous avez très bien, vous avez résumé de façon superbe, c'est par rapport à cette histoire de soit pour la France, soit don de sperme, soit don d'ovule, pas les deux, il y a un parallèle, me semble-t-il, à faire avec la façon dont on pose la filiation en France, d'un point de vue juridique. Moi, j'ai un père qui est réfugié politique. Donc ça m'a posé problème quand j'ai passé mon concours de médecine. Il a fallu que je prouve que j'étais française, bien que j'ai eu d'emblée, j'avais une carte d'identité française. Il a fallu que je prouve et je n'ai pu le prouver que du côté maternel. C'est-à-dire, il m'a fallu trouver un double lien de filiation. J'ai de la chance parce que mes grands-parents maternels étaient nés en France. Il a fallu que je produise les extraits de naissance de mes deux grands-parents parce qu'il faut la double filiation. Et par ailleurs, que je prouve que ma mère, vu que le mariage était en 53, n'avait pas renié sa nationalité, ce qui n'aurait pas été le cas. Donc ça, de faire le parallèle de ce qui se passe, de ce qui se passe par rapport à ça, à la façon dont on définit la filiation, c'est-à-dire qu'il va falloir retrouver une chose. Vous comprenez bien si Michael Haussmann, qui est mon époux, lui, quand il a été reconnu français parce que sa mère avait été mariée avec un homme qui n'était pas le père de Michael, mais qui était français, par lequel elle était devenue française automatiquement, c'est comme ça que Michael a pu avoir sa filiation. Et quand on lui a donné son certificat, enfin, sa reconnaissance, puisqu'il était né d'une mère française, bien qu'elle l'était par mariage, mais c'était automatique, il a eu automatiquement 2 mois. Enfin, il a eu moins de difficultés que moi, bien française. Mais la partie qu'on te rend, on dit père, mère. Père, son père qui était né pourtant en français, en partie français, était rayé, c'était la mère. Donc je veux dire, cette histoire que soit don d'ovule, soit don... Je ne suis pas juriste, je ne suis pas... Mais je pense, d'un point de vue anthropologique, il faudrait qu'on fasse ce parallèle avec la façon dont on définit la filiation de façon plus générale et pourquoi c'est soit don d'ovule, soit non. C'est la même chose par rapport à la problématique en Israël de... Ça arrange beaucoup l'État de faire recours à des dons de sperme par des goyes que d'avoir un père qui est bâtard. C'est-à-dire que le problème de personnes qui sont comme moi, juives du côté du père, et donc pas reconnues comme bâtard, c'est le terme en hébreu en Israël. Donc c'est très problématique. Et du coup, le fait de passer par une technologie qui a un recours à un sperme anonyme d'un goy, c'est beaucoup moins problématique. Il y a des écrits qui ont été faits là-dessus, etc. Donc il faut bien qu'on fasse ce parallèle, c'est-à-dire que ça nous semble différent, mais non. Bien sûr, le droit, il est très, très logique et rationnel, mais en tout cas, ce qui nous semble comme des aberrations sont en fait parallèles à la filiation de façon générale. Alors, je reprends par rapport à cette histoire de Westenberg. C'est vrai que nous insistons par rapport à ces minorités, et vraiment très petites minorités, l'argent qui est dépensé pour ça est énorme, mais je veux dire, c'est très peu de gens qui utilisent pour l'instant le MTR, avec succès. Il y en a beaucoup plus qui les utilisent, mais en tout cas, avec succès, c'est le fait qu'effectivement, on va faire ce que tu disais, pas de biologie. Alors moi, le terme biologie, je refuse, je pense qu'en anthropologie, on devrait l'éliminer, parce que ça n'existe que depuis son usage actuel, date de la deuxième partie du 19e siècle, aussi parallèle avec la façon dont les choses ont changé, mais ce terme recouvre une continuité des choses. C'est pas qu'il y aurait la biologie et le reste. Il y a une continuité des parts. Par contre, le fait d'utiliser le corps de la femme, je suis désolée, il y a le corps de l'homme, mais la grossesse comme lieu pour faire des enfants, va faire effectivement qu'on va se tourner essentiellement vers cette intimité physique particulière et particulièrement substantielle, des échanges substantiels. Donc effectivement, il y a cette visibilité par rapport à cette proximité qui va créer les liens. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure ailleurs, le symbole de la grossesse est le symbole de la dépendance de l'enfant à sa mère. Et quand il y a des rites, quel que soit le moment où on les fait, c'est pour établir une distanciation entre le corps de la mère et le corps de l'enfant, de façon à rendre indépendant son enfant. À l'heure actuelle, ce qui fait problème à des gens qui doivent passer par des MTR, c'est de créer des choses comme l'allaitement, mais il y a aussi le fait, tout à l'heure tu disais que certains parents, les hétéros, certes, veulent invisibiliser ce qui se passe. Moi, en tout cas, dans mon expérience avec les femmes lesbiennes, au contraire, elles veulent que ce soit connu et que ce soit, je veux dire, que le fait d'être enceinte... Oui, mais du coup, c'est très intéressant parce qu'il y a une tendance à l'invisibilisation du côté des hétéros, comme tous les hétéros. Mais pour les lesbiennes, ça devient quelque chose qui va au contraire marquer la proximité avec l'enfant. Je veux dire, de rendre visible ce processus va établir une proximité avec ce qui pourrait être perçu comme une distanciation. Et donc, la problématique est différente. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi je voulais insister, et c'est-à-dire qu'effectivement, tous ces processus participeraient, de ce que j'entends, de la façon dont, au niveau donc, de ce qui se passe au niveau du couple, parce qu'on a un couple qui a une proximité physique, éventuellement sexuelle, mais l'ordre de devenir parents ensemble exige, et là c'est mon expérience plus en tant que psy, comment on fait pour être au même niveau. Par exemple, Eppelboin, que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est un collègue ethnologue mais qui est aussi médecin, lui, quand il a eu ses enfants, il le dit volontiers, il a interdit à sa femme, Sylvie Eppelboin, d'allaiter parce qu'il voulait être à égalité avec elle. Donc comment on fait le partage des tâches? C'est une chose qui n'est pas secrète. Hein, qui...
oui, non, je
donc,
sais.
Donc si vous voulez, comment on fait pour avoir un partage? Donc la société peut le faire, c'est-à-dire que, je veux dire, les processus de la couvade ou d'autres choses vont faire, ou des représentations qui font que le père va être intégré dans les représentations, dans le partage, au niveau de la parentalité, de ce qu'ils apportent ensemble. Et l'expérience partagée, c'est le socle, même quand les gens se séparent à l'heure actuelle, qui se détestent, pas, quand quelque chose de terrible arrive à leur enfant, la seule personne à laquelle ils pensent, dans mon expérience de psy, pour partager quelque chose d'affreux, une maladie, une mort, enfin quelque chose, c'est l'autre, même si on le déteste, parce qu'on est au même, enfin, il y a une expérience partagée qui est unique. Et du coup, je pense que tous ces processus-là sont des créativités individuelles pour recréer cela. Parce que, effectivement, ce qui a été souligné, c'est combien, enfin, dans nos sociétés, la référence à l'identité personnelle, y compris au niveau de la loi, c'est le corps. Le corps est sûr pour affirmer qui est qui à l'heure actuelle. Ça n'a pas été, c'est un processus long, mais qui date de là. Ça commence à la fin du 19e, et puis ça arrive au processus de biométrie, et oui, l'affiliation est secondaire à l'heure actuelle par rapport à l'identification, comme tu le dis. Donc du coup, les gens n'ont pas un choix par rapport à l'identité personnelle, mais là où on les laisse faire, c'est effectivement, ils peuvent ne avoir des enfants ou ne pas en avoir, ça on estime au niveau de l'État qu'on n'intervient pas, alors que dans d'autres sociétés, pour les libérer de leur lien de proximité avec leurs parents, on fait tout, comme Françoise Héritier est une des personnes qui l'a montré, pour les autoriser à avoir des enfants, ce qui est vu là comme leur donner une indépendance, et leur permettre d'avoir une vie qui dépasse le simple fait de subvenir à leurs propres besoins matériels. Hein, on donne cette autorisation dans nos sociétés. Mais ce que font les gens, et je trouvais que ce qui était dit par rapport au fait que les femmes porteuses pouvaient être identifiées à des nounous, c'est vrai que dans nos sociétés, on fait appel à ce que moi j'ai appelé des tiers non familiaux pour mettre entre les parents et les enfants des tiers qui permettent d'établir une distanciation. Parce que notre souci dans la société, c'est effectivement d'établir une distanciation. Et du coup, je trouve que le fait qu'elle s'assimile à ces tiers non familiaux que sont les éducateurs, le fait que ça nous semble naturel qu'on mette les bébés à 2 mois dans des lieux tiers, mais ça ne l'était pas, je veux dire, ça a été la précocité de faire appel à des gens payés pour s'occuper des enfants, c'est quand même relativement récent pour la majorité de la population européenne ou d'origine européenne, mais ça n'a pas, enfin, dans beaucoup de sociétés, c'est des tiers familiaux qui s'occupent des enfants. Donc tout ça doit être, nous montre qu'effectivement, nous, dans l'Ouest, on souligne des choses qu'on n'a pas assez travaillé, nous, les ethnologues, de l'exotique ailleurs, c'est-à-dire effectivement la façon dont les gens vivent et ont cette expérience partagée de parentalité, mais que par ailleurs, le fait d'avoir eu un souci par rapport à la parenté élargie nous permettrait de voir qu'il y a des liens entre établir des proximités par rapport à des adoptions ou des fosterage, qui n'est pas la même chose que l'adoption. Enfin, nous, on a affaire à des fosterage, c'est-à-dire des gens... je travaille avec les aborigènes australiens, il y en a qui ont 5 filles et puis ils ont un garçon. Ben, un garçon, il va vivre chez ses cousins, etc. Ça passe pas trop mal. Et on reconnaît qu'il a ses parents biologiques, mais il a d'autres parents. Donc comment, effectivement, ces circulations... Excusez-moi, j'ai été longue, mais je me suis passé des petits points.
Beaucoup de doublons de gamètes. Merci. Très bien. Donc, vous avez dit qu'il était interdit d'avoir recours au doublons de gamètes, mais en même temps, on peut quand même légalement accueillir un embryon d'un autre couple, qui donc est issu de gamètes qui n'ont rien à voir avec les parents non plus, enfin les parents d'intention. Qu'est-ce qui permet ça, à la fois d'un point de vue légal, mais aussi anthropologique? Qu'est-ce qui fait que dans un sens, ça ne passe pas, dans l'autre, ça passe, alors que techniquement...
Alors, voilà. Oui. Peut-être que Pierre Joannet complétera, donc, qui est médecin. Moi, ce que je peux juste en dire, c'est que ce qui était en question dans la question des embryons, c'était qu'il y a un stock d'embryons surnuméraires qui est assez conséquent. Et donc l'idée, c'était d'offrir aussi une issue à ce stock d'embryons. Et après, du point de vue légal, c'est autre chose. Après, ces embryons, ils sont consentis de la même façon qu'on consent au don de gamètes. On doit passer devant le tribunal de grande instance. Enfin, il y a une procédure. Mais je dirais que la distinction, alors là, qui n'est pas anthropologique, mais qui est quasiment pragmatique, c'était on a un stock d'embryons. Donc, qu'en faire? Mais peut-être, voilà. Après... Moi, ce qui m'avait intéressé, alors là, plus d'un point de vue anthropologique, enfin socio-anthropologique, mettons, c'est la représentation justement que ces personnes se font des embryons. Et il est très clair que dans le cas d'un accueil d'embryons, pour les personnes qui donnent leurs embryons, elles se considèrent comme un enfant. Mais un enfant qui n'est pas avec un processus de désappropriation. Il y a quelque chose dont j'avais beaucoup parlé avec Henrik d'ailleurs, sur ce rapport à la propriété. Et qu'à la limite, les gens qui veulent détruire leurs embryons, ils ont plus un rapport de propriété avec ces embryons. Ils sont à eux et donc ils ne vont pas les donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc là, je commence un nouveau terrain justement sur les gens qui vont détruire leurs embryons. Je viens d'avoir un avis éthique favorable. Et sur ceux qui vont les donner à la recherche, et je vais essayer de voir justement. Et ça dit aussi beaucoup de la corporéité de la parenté.
C'est un point qui m'intéressait particulièrement parce que j'ai l'impression que quand on fait des enquêtes de terrain, on se rend compte qu'il y a parfois un décalage entre le symbolique et puis la réalité pragmatique des choses. Et donc ici, refuser des enfants issus d'un double don de gamètes pourrait être justifié par l'idée que comme il n'y a plus de lien biologique, alors pourquoi créer ces enfants? Ouais, alors que des embryons préexistants peuvent être réutilisés. C'est extrêmement pragmatique et du coup le symbolique était assez intéressant puisque ça justifie les bricolages, comme dit Dominique Lénine, en termes de...
Enfin,
biologie,
oui, Michel de Certeau,
c'est ça,
Lévi-Strauss, accessoirement.
Sur cette question du symbolique, je peux vous inviter à regarder, parce que moi, comme matériel de recherche, je demande aux gens que je rencontre de me dessiner des embryons.
D'accord.
Et donc, voilà. Et il y a clairement, c'est-à-dire que ces gens qui me disent, pour la plupart du temps, quand ce sont des donneurs, en tous les cas, c'est un enfant potentiel. Bon, après, voilà, ils font des dessins comme ça, où il n'y a rien. Voilà. Et à l'inverse, ce qui est assez intéressant, cette question du symbolique, c'est que ces gens qui vont recevoir ces embryons, comme ce sont des gens donc, qui sont en bout de parcours, hein, c'est-à-dire tout a échoué. Et donc, eux répugnent, enfin, vraiment, on le soucie, répugne, c'est trop, c'est pas le bon mot, excusez-moi, mais on le soucie en tout cas de ne pas considérer cet embryon comme un enfant, justement, pour ne pas y mettre trop de choses, pas trop de potentialité, pour ne pas être, comme disent-ils, trop déçus, trop. Mais clairement, cet écart entre le symbolique, la représentation, enfin, c'est véritablement ce sur quoi aussi on travaille, quoi, et quasiment là, moi, pour ce qui me concerne, au sens propre.
Parfois il arrive que des revues imposent un titre à un dossier, une demande de changer de titre. Là c'est pas le cas, donc c'est nous qui avions proposé le titre. Il y a eu des questions et on l'a défendu, et normalement moi je considère que c'est un bon titre, et je pense que ce qui fait un bon titre c'est quand il fait apparaître une problématique et quand il c'est pas évident en deux mots, souvent je suis pas très doué moi-même pour trouver des bons titres. Donc il faut qu'il contienne une problématique et qu'il pose un problème. Donc à mon avis, le fait que vous posiez la question, Pierre, c'est justement révélateur, à mon avis, que ça fonctionne. C'est-à-dire que pour compléter ce qui a déjà été dit, c'est à la fois une problématique et un clin d'œil, ce titre. C'est-à-dire que ça fait référence au fait qu'en sociologie, en particulier en sociologie, on a quand même conscience depuis longtemps que les hommes, quand ils se reproduisent, ils ne font pas que se reproduire eux-mêmes, ils contribuent aussi la reproduction sociale, la reproduction de leur groupe, dans tous les sens. Les ethnologues, merci. Et donc, en l'occurrence, vous aviez raison d'insister là-dessus. C'est vrai que, alors on ne l'a pas fait en juriste, on l'a fait en sociologue ou anthropologue ou historienne, on s'est intéressé à ce que le droit produit. Alors le droit, là, c'est deux acceptions, c'est-à-dire à la fois la loi, mais aussi le droit tel qu'il est fabriqué dans le cabinet du juge ou à l'état civil. C'est aussi une autre forme, enfin moi je le dis à ma manière, hein, mais,
non, non, mais tu
c'est aussi une autre forme de fabrication du droit, pas seulement la jurisprudence, mais aussi là où il est mis en acte. Hein.
Là où
il est mis en acte, concrètement fabriqué, derrière des décisions de justice, il y a des dossiers, il y a des pièces qui sont fournies par des gens, etc. Donc nous, c'est ce matériau-là qui nous intéresse particulièrement. Pardon. Et donc, il me semble justement que ce qui apparaît dans ce dossier, c'est deux choses en particulier qui sont importantes. Le fait que d'abord, les familles ne font pas que se reproduire elles-mêmes, hein. Elles contribuent à reproduire en l'occurrence la nation, et qu'au nom de cela, l'État est légitime pour réglementer, légiférer, encadrer les pratiques reproductives et déterminer un certain nombre de droits afférents à ces pratiques reproductives selon les contextes, les conditions, etc., matérielles de leur pratique. Parce que les citoyens vont contribuer à reproduire la nation en se reproduisant eux-mêmes. Donc je n'irai pas plus loin, mais je ne relis pas ce titre et je trouve au contraire qu'il est bon dans ce sens où il dit tout ça. Et que c'est des choses qui sont présentes, c'est des choses qui sont. C'est une problématique qui traverse, me semble-t-il, les quatre dossiers de manière différente, parce que les matériaux sont différents, mais c'est une problématique transversale aux quatre articles. Pardon.
Et puis la nation, d'un point de vue historique, pour les historiens, j'avais demandé à André Burguière, c'est effectivement, c'était projeté sur le corps du roi. Enfin, dans l'ancien régime, la nation, c'est le corps du roi. Et le terme aussi, de sujet voilà. Qui, pour nous, est lié à une agentivité reconnue, était en fait un assujettissement au roi. Parce que c'est lui qui avait le pouvoir de vie et de mort sur nous. Et ça s'est transformé en son inverse. Mais je trouve que le corps de la nation et pourquoi, effectivement, les infertilités royales représentaient, effectivement, une perte de puissance d'une nation. C'est passé pendant la guerre de 70, ce qui a
compris. C'est vrai. Les ethnologues travaillent sur un terrain. Les ethnologues. Bon, moi, ça fait 6 ans que je m'intéresse au sujet de la gestation pour autrui, et malgré tous mes efforts, certainement parce que je ne suis pas moi-même gynécologue, hein, mais malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenu à rencontrer des familles ou des femmes qui auraient porté des enfants pour autrui en France. Je sais bien que ça existe, hein. Très probablement que ça existe, parce qu'il n'y a pas de raison de penser que des femmes ne portent pas des enfants pour une sœur, pour une tante, pour une amie, pour je ne sais qui. Puis, comme ça s'est toujours pratiqué, malgré ce que disait la loi, bien sûr. Bon, mais alors, pourquoi est-ce que j'en ai pas rencontré? Certainement parce qu'il y a l'état du débat... Je ne
fréquente pas avec les médecins.
Pardon? Je ne fréquente pas avec les médecins. Et oui, mais
c'est... Non, parce que c'est le droit... Et
parfois, c'est compliqué.
C'est clair, c'est
compliqué. Oui.
Mais le droit l'interdit.
L'interdit.
Bien sûr, l'interdit. Oui, voilà. Non, c'est ce que je voulais dire.
Bien sûr,
le droit l'interdit, puisque que le mécanisme qui vient d'être mentionné, c'est ça s'appelle de la supposition d'enfant. Ça ne s'appelle pas le fait de présenter les papiers d'une autre personne, c'est la supposition d'enfant, puisque la paix. Et c'est un déliant.
Oui, donc ça me paraît. Oui,
oui, mais c'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que l'état du droit. Et puis aussi l'état du débat sur cette question de la gestation pour autrui fait que très probablement ces gens n'ont pas du tout envie de dire à qui que ce soit, sauf aux médecins qui les suivent certainement parce qu'à un moment donné ça s'impose.
Oui, mais c'est une infraction.
Oui, non, mais bien sûr, c'est pas la question. C'est pas la question. Si on s'intéresse en sciences sociales qu'aux pratiques légales, il y a tout un pas des sciences, sociales
fini, là, on
qui disparaissent.
Vous arrêtez de travailler.
On reste ici.
Les pratiques
plus rien sur l'excision, plus rien sur
de mais sur la parenté.
Sur la parenté, il n'y a pas
rien.
Il n'y
a pas grand-chose. Malheureusement, on a des choses explosives.
La technique, ce que vous relevez, là, cette pratique sociale, c'est une pratique... Alors moi, je ne sais pas si je l'appellerais gestation pour autrui. Là, il y a aussi un travail à faire sur le vocabulaire, très probablement. Mais c'est des techniques de... Alors les juristes appelleront ça substitution d'enfant, mais c'est des techniques de parenté classiques,
oui.
qui ont existé dans toutes les sociétés et qui continuent à exister, y compris chez nous, évidemment.
Qu'on étudie.
Mais après, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est éminemment intéressant. Mais écoutez, ouvrez-nous des terrains, Pierre.
Voilà. Oui,
on ira les rencontrer.
Si, 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 si